Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans La France Bouge. J'ai une heure pour vous emmener à la découverte de start-up, de pépites françaises, à la découverte d'entrepreneurs et d'audacieux. Ici c'est simple, on ose et on se lance, vive l'entrepreneuriat grâce à vos idées, grâce à votre pugnacité. Au sommaire de votre émission, une France bouge dans la fabrication française des accessoires de notre quotidien. Gros plan sur une entreprise née en 1937 par des femmes, entreprise familiale qui fabrique pour les plus grandes maison française qui a fait sensation dernièrement entre les mains de la chanteuse Rihanna. Cette entreprise de gants s'appelle Aniel et 86 ans après sa naissance, elle se porte toujours aussi bien. Bonjour et bienvenue Sophie Grégoire.
Bonjour Elisabeth.
Vous êtes la présidente d'Aniel, bienvenue, vous êtes l'invitée de La France Bouge. En face de vous, elle a fait l'essai qu'elle était coach de grands patrons. Depuis le confinement, elle fabrique des capuches. C'est capuches avec un K. Bonjour Déborah Ouana.
Bonjour Elisabeth.
Bienvenue, vous êtes la fondatrice donc de capuches. Vous allez nous raconter déjà ce qu'est capuches, votre histoire d'ici quelques minutes. Et puis des baskets fabriquées en France à base de kawé recyclé. Et oui, c'est très sérieux. Ça s'appelle BIS et ça vient tout juste de se lancer. Bonjour Mathieu Pinon.
Bonjour Elisabeth.
Bienvenue dans La France Bouge, vous avez besoin de développer votre toute jeune entreprise à la peine quelques semaines. Ça tombe bien, Nathalie Carré en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de Commerce va vous délivrer une ordonnance de conseil vers 13h40. Tous les trois, vous avez un point commun au-delà de l'accessoire, au-delà de la fabrication française. Vous allez pitcher votre entreprise pendant une minute autour de la table de La France Bouge. Et puis, impossible de mettre la France et notre savoir-faire en avant sans partir à Cherbourg. Et nous allons écouter Solène Godin nous raconter l'histoire des parapluies de Cherbourg. Allez, bienvenue dans La France Bouge. C'est parti, nous sommes ensemble jusqu'à 14h. C'est l'émission des entrepreneurs et des audacieux sur Europe 1.
La France Bouge, la patronne du jour.
La France bouge, on a eu envie de s'intéresser à nos accessoires du quotidien fabriqués en France avec derrière ces produits de très très belles histoires françaises. On commence avec vous Sophie Grégoire, présidente d'Aniel. Aniel, vous savez Sophie, d'abord avant de parler d'Aniel, la France bouge, c'est le rendez-vous des patronnes, des patrons, des dirigeants, de ceux qui se lancent. Donc d'abord vous allez nous présenter votre entreprise. Aniel, imaginez, c'est une start-up. Ok, elle est née en 1937. Imaginez que vous devez convaincre des investisseurs. Vous devez vendre Aniel. C'est quoi Aniel? Vous avez une minute. Est-ce que vous êtes prête?
Oui, je suis prête.
Allez, c'est parti, on y va.
Donc Aniel, entreprise, une ganterie, donc basée à Saint-Junien, en Limousin, créée par mon arrière-grand-père en 1937. Et après, tenue par trois femmes, trois générations de femmes. Donc, ma grand-mère, la bâtisseuse, qui a construit le bâtiment dans lequel nous sommes encore aujourd'hui. Une grande maison au centre de Saint-Junien. Maman, qui a repris l'entreprise en 1965 et qui a eu le flair extraordinaire d'aller vers les marques de luxe. Et qui a commencé donc à travailler avec les maisons Dior, Saint-Laurent, et puis les jeunes créateurs dans les années 80, Monsieur Alaïa, Mugler. Et donc on continue encore cette activité de sous-traitance pour les grandes marques. Et on a aussi développé maintenant la marque Aniel, qui est distribuée dans le monde entier, plutôt dans les grands magasins et les boutiques multimarques.
Merci pour votre pitch, c'est très clair. Sophie Grégoire, merci de vous être prêtée à l'exercice. Vous êtes la présidente d'Aniel, cette ganterie hein, qui existe depuis 1937. Alors, pour comprendre Aniel, on va remonter évidemment votre grand-mère.
Oui. Hein,
c'est important. Trois générations sans interruption. Aujourd'hui, l'entreprise, vous l'avez dit, vous êtes à la fois une marque en nom propre, mais aussi toujours un sous-traitant. Tout a commencé grâce à Dior.
Oui, tout à fait.
On peut le dire comme ça.
Oui, complètement. Puisqu'en fait, à l'époque de ma grand-mère, on fabriquait des gants et les acheteurs venaient du monde entier, à Saint-Junien, à Millau, à Grenoble, et ils achetaient des produits anonymes, enfin qui n'avaient pas de marque, qui n'avaient pas beaucoup de style non plus. Et puis, maman a eu ce flair extraordinaire. Et donc, voilà, on a commencé avec la licence Dior pendant 30 ans.
Mais comment ça vient à vous, Dior? Comment votre maman se dit « tiens, je vais aller chez Dior ?»
Alors, je ne sais pas vraiment. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'elle est, c'est une très belle femme, très pétillante. Et de son Saint-Junien, elle est allée à Paris. Puis, elle a rencontré des gens qui l'ont mis en contact avec d'autres. Et c'est arrivé le plus naturellement possible. Et
donc, vous sortez de Saint-Junien très rapidement pour aller vous associer à Dior. Donc ça, ça vous permet de, bah, de vous faire connaître auprès des grandes maisons, de vous exporter. Déjà, très, très rapidement, vous vous exportez.
Et en fait, je trouve qu'à chaque génération, on apprend un nouveau, une nouvelle manière de faire. Ma grand-mère, donc, elle bâtit et elle fabrique. Et maman, elle fabrique et elle crée et elle
pour
exporte
d'autres
pour d'autres marques. Et c'est là où on apprend, en fait, à être dans un grand magasin, d'avoir un stand, d'avoir des vendeurs, de faire des collections, de faire de la presse. Tout ça se construit à partir de ça. Et on a eu beaucoup de chance parce que ces marques nous ont beaucoup aidés, nous ont accompagnés dans toutes ces choses qu'il fallait que nous apprenions et faire des petites séries. Et ça nous amène à Rihanna et en ce moment à Beyoncé.
À Beyoncé, vous avez d'ailleurs Beyoncé qui se produit. Bah, elle est aujourd'hui là, elle se produit au Stade de France. Il est prévu que ce soir elle porte des gants à niais.
Alors aujourd'hui, en fait, toutes les marques du monde entier travaillent sur sa tournée et travaillent sur des tenues. Donc j'ai l'impression qu'elle change
déjà
de tenue
à Stockholm,
chaque fois.
Elle a démarré avec des gants à niais.
Oui,
j'ai vu sur
donc,
vos réseaux.
Tout à fait. Et donc la marque Loewe.
À
travers la marque de Loewe, qui donc lui a fait cette sublime robe avec des mains partout qui entourent son corps.
Mais d'ailleurs, quand on voit les mains, je vous invite à aller voir le compte Instagram Agnelle, hein, parce que on voit les mains de sur la robe de Beyoncé, on a l'impression que c'est des gants, la forme de vos gants,
hein,
des gants Agnelle. C'est incroyable. Avant de revenir à Rihanna, Beyoncé, de ce qui nous intéresse aujourd'hui, on va continuer à traverser l'histoire Agnelle dans les années 80. Vous rencontrez Monsieur Alaïa aussi.
Écoutez, ça, c'était quand même un maman.
Elle est incroyable, votre maman. Donc
ouais,
après Dior, elle va taper à la porte de Monsieur Alaïa.
Oui, tout à fait. Et c'était Monsieur Alaïa a créé pour moi le premier gant iconique avec ses rivets. Donc il prend des choses qui étaient faites mises sur des vêtements industriels, donc le zip, l'œillet et tout ça. Et donc il fait sur un gant donc une cinquantaine d'œillets qu'on pose un par un. Et c'est son premier produit. Et donc voilà, donc c'est un petit Tunisien qui n'a pas du tout, bien sûr, la renommée qu'il a
eue
après. Et donc c'est une fantastique histoire. Et
mais
maman,
comment ça se fait que
de manière très, très naturelle, me dit « Écoute, va le voir ». Et donc c'est le premier créateur que je vais voir. Et il me dit à ce moment-là, vous savez Sophie, je fais ce métier pour les filles, donc les mannequins, et mes fournisseurs. Et donc il me donne une vision de la mode et des créateurs absolument fantastique. Et vraiment, ça reste vraiment très, très, très important pour moi, cette expérience.
Oui, c'est très ancré. Donc, vous démarrez aussi avec Monsieur Alaïa. Alaïa, à cette époque, le gant, ça représente quoi en France? Qu'est-ce que ça signifie de porter des gants? C'est un accessoire qui est particulier, qu'on ne porte pas tous les jours. C'est quoi le gant?
Alors, le gant, Alors, son histoire a beaucoup changé. C'était un.
Mais au moment où vous démarrez avec la licence Dior, puis Alaïa dans les années 80, c'est quoi?
C'est encore un élément d'élégance. Monsieur Dior mettait beaucoup de gants, ses silhouettes. Souvent, il y avait des manches trois quarts avec. Donc, le new look, il y a des gants. Et là, aujourd'hui, c'est un peu les deux. C'est un élément de mode et un élément aussi que l'on porte plutôt quand il fait froid. Mais pas que, aussi sur son vélo parce qu'on se protège.
Oui, en ce moment, surtout sur les vélos, on a besoin des gants. Ça, c'est pour l'histoire de Danielle qui continue, qui perdure dans le temps et qui perdure aussi parce qu'elle a eu des hauts, des bas. Arrive dans les années 90 l'opportunité de vendre l'entreprise à un groupe américain spécialisé dans les gants de travail et dans les gants de footballeurs.
Oui,
on est dans les années
fait.
90, là, c'est ça?
Alors, en 1999...
Oui, donc à la veille des années 2000, oui.
Voilà, ce groupe vient nous voir et nous propose de nous racheter. Et donc, moi, j'avais une quarantaine d'années. Et je trouve que c'est une opportunité fantastique pour maman qui n'avait pas forcément très bien préparé sa retraite, mon grand-père non plus. Et donc, j'accompagne ce projet, je suis très enthousiaste.
Donc vous le vendez.
Et donc maman vend, l'entreprise. Et moi, je reste pendant 2 ans.
Vous restez pendant 2 ans. Donc si on fait bien les calculs, on est en 99, on arrive en 2001. 2001, aux États-Unis arrive le drame des Twin Towers. Et là, ce groupe américain vous dit, moi, finalement, on ne sait pas trop faire.
Oui, complètement. Et donc, il faut revendre. On a jusqu'à fin décembre pour trouver une solution. Et donc, avec le 11 septembre, impossible de personne n'est tellement ouvert à investir dans une entreprise aussi rapidement et tout ça. Et donc là, je me dis, là, j'ai plus le choix. Il faut que je trouve des solutions. On ne peut pas s'arrêter comme ça. C'est pas possible. On ne peut pas s'arrêter. Donc, je vais voir mon fabricant de cuir et je lui dis, écoute, est-ce que tu m'accompagnes dans cette aventure? Sachant que
donc
je n'avais pas d'argent.
Donc, pour racheter de nouveau l'entreprise.
Oui.
Et là, il vous dit quoi, votre fabricant?
Il me dit, oui, bah, écoute, banco, on y va. Et c'est le meilleur banquier du monde, le fournisseur principal.
Bah parce qu'il a besoin de vous aussi.
Il a besoin de moi et puis moi, je le paye quand j'ai de l'argent. Donc, le meilleur banquier.
Vous restez avec nous, c'est passionnant l'histoire de l'entreprise de gants Agnelle, Sophie, Grégoire, hein, La France Bouge. C'est aussi rencontrer des entrepreneurs qui sont en train de se lancer. Et je vous présente Sophie, je vous présente Déborah. Déborah Oana qui a fondé Capuche. Déborah, vous restez avec nous parce que vous aussi, vous vous lancez dans l'accessoire. Capuche, c'est fabriqué en France. À tout de suite. À suivre, un accessoire à lui tout seul. Après le gant, la capuche fabriquée avec des tissus de qualité, des chutes de tissus des grandes maisons. Ça s'appelle Capuche avec un K.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag.
La France bouge et si vous nous rejoignez, merci d'être avec nous. La France bouge avec des entrepreneurs, des start-up, des patronnes, des patrons, des parcours de vie. Et aujourd'hui, gros plan dans nos accessoires du quotidien grâce à une fabrication française pour la plupart d'entre eux. Nous sommes avec la patronne, la présidente d'une entreprise familiale qui est née en 1937. Hein, une entreprise, c'est de la ganterie, c'est ça? On appelle ça comme ça.
Oui.
Sophie Grégoire, vous êtes la présidente de la maison Agnelle. Et on va poursuivre avec les accessoires. On va poursuivre avec vous, Déborah Oana. Vous êtes la fondatrice de Capuche.
La France bouge. La start-up du jour.
Déborah, vous avez 40 ans, c'est ça? Vous avez une formation en droit des affaires et en finance. Vous avez fait l'ESSEC. Vous avez été thérapeute, coach de dirigeants d'entreprise. Et là, en 2020, pendant le confinement, vous vous intéressez aux capuches.
Oui.
Comment on passe de coach de dirigeants d'entreprise à de la fabrication de capuches?
En fait, je me rends compte au fur et à mesure que c'est une autre manière de prendre soin de la tête. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours voulu associer business autour de comment on exploite ce qu'on a dans la tête, où est-ce qu'on peut l'emmener. Et au final, sans le vouloir, je me mets à créer un accessoire de tête en parallèle du fait de m'occuper de la tête.
Du mental,
de l'état d'esprit, de la philosophie de quelqu'un. Donc finalement, c'est assez évident.
Bon, pour vous, c'est évident. On sort du confinement. On est en 2021, c'est ça?
C'est ça.
Et là, on recommence à reprendre l'air, à respirer à l'extérieur. Et ça vient tout naturellement. Je crois que vous étiez en boîte de nuit. Vous êtes en train de danser. Vous sortez, il pleut. Enfin, un truc très, très, très bateau.
Très fête de la musique. 21 juin, on sort du confinement. On se sent un petit peu libéré quand même. Et là, en fait, il fait chaud. Je suis en débardeur. On danse et il se met à pleuvoir des cordes. Et c'est vrai que j'ai une petite aversion pour le parapluie. Et là, je me dis, mais en fait, la liberté de pouvoir juste avoir la capuche et de porter tout ce qu'on a envie de porter, libérer complètement son vestiaire en ayant juste une protection de la tête qui soit et pratique et stylée.
Et stylée, c'est important.
Et stylée,
parce
c'est vraiment
que la petite capuche
important.
Qu'on met au marché, là,
la capuche à mémé, c'est pas l'objet.
Voilà. Ouais. Voilà. Bon, bah alors tout ça, ça nous mène à Capuche, K-A-P-U-S-H. Je vous invite à aller regarder ce que c'est sur les internets. Le reste, vous allez nous le raconter. C'est quoi Capuche exactement? Vous aussi, vous avez une minute. On y va? Allez, c'est parti.
Alors, Capuche, c'est la sneakers de la tête. J'aime bien dire qu'on dépasse le côté utilitaire et montrer son identité, c'est plus enlever sa capuche, mais la mettre. On crée un accessoire de mode qui libère le vestiaire, qui est une véritable pièce détachée. Elle est non-genrée, mais pour tous les genres, toutes les générations. Capuche se porte avec un débardeur, un jogging, une robe du soir, un costume ou une veste en jean. C'est aussi une façon de s'exprimer en restant anonyme. Et j'ai vraiment envie que Capuche accompagne le mouvement d'une société qui a besoin de se préserver du dehors en étant dans l'expression de sa singularité. Capuche, c'est le vêtement d'expression d'un anonymat visible. Puis Capuche, c'est aussi pour tous et par tous les temps. C'est toute saison, tout terrain, tout ouvert, quand bien même on peut la fermer. Parce que le cocon a différentes épaisseurs, Capuche arrive toujours avec des nouvelles propositions pour habiller sa tête. Et puis on n'oublie pas que tout part de la tête pour aller vers le corps. Et donc l'évidence de faire de la capuche un accessoire qui prend soin de votre tête, de votre humeur du jour, de votre besoin d'être dans un cocon, tout en ayant du style.
Très bon pitch, merci Déborah Ohana, fondatrice de Capuche. Mais montrez-nous, là vous en avez un auto,
oui.
Mais... Alors comment ça, donc là il est couleur bronze, je décris aux auditeurs, couleur bronze avec un petit zip très joli qui oui. est dans les touffes framboises, un peu cerise. Et Alain, il y a une petite poche.
Oui.
C'est très sympa, c'est pourquoi peut... c'est pour mettre un petit, une petite carte. On a la taille d'une carte ?
Oui, on peut mettre sa carte, on peut mettre ses AirPods, enfin on peut mettre sa clé si on veut juste aller à la boulangerie tranquille. Enfin,
ils adorent voilà. En régie, je le vois, ils sont en train d'acclamer. Donc il y a du bronze à l'extérieur, à l'intérieur c'est doublé, c'est en quoi ?
Oui, alors on essaye de trouver des matières qui sont toujours techniques, mais le plus responsable possible. Donc on travaille avec... plein de fournisseurs différents qui, en fait, nous permettent toujours d'aller travailler et ce côté technique et ce côté élégant. Et donc, c'est variable. On est vraiment ouvert à tout ce qui est innovant et pertinent.
Vous avez démarré en fonds propres, puis
oui.
vous avez trouvé un associé qui a investi. En ce moment,
oui.
je crois que vous êtes en train de rechercher de l'argent.
Exactement.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire...
Vous recherchez combien ?
500-600 000 euros, je dirais.
D'accord.
Ouais.
C'est faisable, Sophie Grégoire ? Vous avez l'expertise, Daniel, et des hauts, des bas de l'entreprise
Alors oui. Alors c'est assez nouveau. Moi, quand j'ai commencé, c'était le partenaire, c'était le banquier. Maintenant, il y a plein d'autres manières de se financer. Mais bonne chance.
Merci. Quel regard portez-vous, Sophie ? Voilà, c'est un accessoire. Vous, c'est les gants. Là, Déborah est en train de lancer la capuche. Fallait y penser.
Ouais, c'est formidable. Et alors, on a quelque chose en commun, c'est nos cheveux frisés. Et alors, quand il pleut, c'est une catastrophe. Oui, j'ai très, très envie. Et on a déjà parlé de faire une collaboration ensemble.
Mais racontez-nous, c'est oui. ça, c'est le oui. La France bouge. Quel collab, racontez-nous. Qu'est-ce que ça va faire ?
Écoutez, j'aimerais beaucoup, parce que j'essaye aussi de faire en sorte que nos gants soient pratiques, confortables, utiles. Ils sont beaux, ils sont créatifs et tout ça, mais ils sont aussi pratiques. Et donc, voilà, je vous parlais de la mobilité. Ça serait chouette de faire quelque chose dans ce sens-là.
Une collab Agnès Capuche.
Oui, c'est la tête, les mains, les pieds finalement.
Ouais.
À nous trois aujourd'hui.
Très complémentaire, il y a du business à faire et surtout des grandes choses pour nous faciliter notre quotidien avec des produits. Alors, je dis fabriqués en France, vous, c'est une partie. Vous ne pouvez malheureusement pas encore tout faire fabriquer en France. Les tissus, sont des chutes de tissus de grandes maisons françaises.
Pour une part, oui.
Ouais.
Oui.
Et le reste est fabriqué où ?
Alors, il y a une partie qui est fabriquée en Italie.
Ouais.
Et puis, on essaye de faire le plus français possible.
C'est compliqué.
Après,
ça reste compliqué.
Oui, après, c'est vraiment... la France et l'Italie ont toujours été un peu côte-côte sur le savoir-faire et l'élégance. Donc, c'est vrai qu'on essaye de profiter de l'alliance la plus pertinente pour avoir un produit le plus abouti possible. Et donc, selon les contraintes techniques de certains produits ou d'autres, on s'adapte, et surtout qu'on est nouveau, donc quand on est petit, on a besoin d'une flexibilité quand même.
Donc, on est sur des prix haut de gamme,
oui.
Parce que je crois qu'elle coûte environ...
Un peu moins de 300 euros.
Oui, quand même, on est dans du très très haut de gamme. Là, il s'agit d'une capuche, celle que vous portez pour quand il fait froid, on arrive au beau jour. Est-ce que vous envisagez de sortir des capuches pour les orages d'été, c'est-à-dire ne pas avoir trop chaud autour du cou?
Tout à fait.
Oui.
Oui, celle que je porte aujourd'hui, justement, c'est ce que j'appelle une mid-season. On a commencé vraiment avec une capuche un peu volumineuse parce que je la trouvais super belle et très pratique, très évidente. Et on a très vite décidé de décloisonner les saisonnalités pour faire en effet du printemps de l'intermédiaire. Et puis on arrive aussi l'année prochaine avec une vraie collection d'été pour se protéger du soleil. Et donc il y aura maintenant la capuche qui va pouvoir aussi ne pas se jouer que de la pluie, mais aussi du soleil. Donc oui, il y a vraiment cette envie de décloisonner les saisons et d'en faire. Ouais.
En tout cas, je peux vous dire que mes collaborateurs, dont Thomas Gentil, qui se déplace à vélo matin, midi et soir, me dit que c'est très pratique dans l'oreillette, justement, d'avoir une capuche comme ça quand on est, quand on se déplace à vélo, tout simplement.
Tout à fait. Alors, c'est vrai que le positionnement prix aussi est important parce qu'on veut faire un produit qui dure, on veut faire un produit qui est vraiment, comme je disais, la sneakers de la tête. C'est-à-dire qu'au lieu de s'acheter plein de vêtements, plein de manteaux, plein de doudounes et de consommer, vraiment, l'idée, c'est de se dire j'achète un produit qui est qualitatif, qui est beau et qui est durable pour pouvoir justement. Capitaliser sur un bel objet plutôt que de la consommation rapide.
On est vraiment attentif aujourd'hui à ça. Je crois que vous avez un espace au Printemps Haussmann à Paris.
Oui.
Et votre site internet ?
Notre site internet, on est aussi, on a été dans beaucoup des stations de ski, Courchevel, Tignes, ouais. Val d'Isère.
Toujours un peu haut de gamme.
Voilà, Marseille, Lyon.
Vous restez avec moi toutes les deux, Déborah Oana pour Capuche et vous, Sophie Grégoire, présidente Daniel. On va vous présenter l'autre pépite du jour, en route pour les trophées européens de l'avenir avec vous. Mathieu Pinon, vous êtes le fondateur de BIS. BIS sont des baskets.
Oui.
À base de kawé.
Alors, à base de coupe-vent, parce qu'on a...
À base de coupe-vent.
Oui, de coupe-vent vintage.
De coupe-vent vintage.
Des kawé, ouais. Mais à base de coupe-vent vintage.
Ah, d'accord, on préfère dire coupe-vent vintage. Allez, vous restez avec nous. La France bouge à suivre, on va rester dans la fabrication en partie française hein, avec des idées de génie, avec BIS, une marque de basket upcyclée qui fait le pari de redonner vie à des coupe-vent vintage. Comment ? Eh bien, on réemploie leur matière, c'est-à-dire le nylon. À tout de suite.
Europe 1.
La France bouge. Elisabeth Assayag.
Bien sûr qu'elle bouge cette France, on le voit chaque jour sur Europe 1 avec des entrepreneurs, des patronnes, des patrons, des parcours de vie. Peut-être que vous aussi, vous avez envie de vous lancer, de monter votre entreprise. Ben lancez-vous, parce qu'ici on le voit chaque jour dans La France bouge, tout est possible. Aujourd'hui, vive la fabrication française avec des objets du quotidien, avec des grandes maisons françaises comme Aniel. On en parle avec vous, Sophie Grégoire. Vous êtes la présidente d'Aniel, entreprise familiale, trois générations de femmes qui existent depuis 1937. Nous sommes avec une toute jeune entrepreneur. Elle s'appelle Déborah Oana. Vous êtes la fondatrice de Capuche. Capuche, ça a été lancé il y a 2 ans. Auparavant, vous étiez coach de dirigeant d'entreprise. Vous continuez à les accompagner ?
Oui, tout à fait. Et c'est vrai que l'expérience d'entrepreneur apporte aussi une expérience terrain qui enrichit en fait cet exercice.
Ouais, et quand vous leur dites que vous êtes lancée dans la Capuche, ils vous disent quoi, vos dirigeants que vous accompagnez ?
Oh, ils aiment bien. Ils sont curieux. Et puis,
vous
ça suscite
du cadre,
des questions.
Vous, hein ?
Ouais, j'aime bien.
Ouais, ça doit les titiller aussi, ça doit leur renvoyer un truc. Mais moi aussi, peut-être qu'il faudrait que je sorte un petit peu du cadre. Et on va continuer avec vous, Mathieu Pinon. Vous êtes le fondateur de BIS.
La France bouge, la pépite du jour.
Alors BIS, c'est un projet qui est né quoi, il y a quelques semaines ?
Alors c'est un projet qui est sorti il y a quelques semaines, mais qui est né il y a une bonne année maintenant.
Voilà, donc il est sorti il y a quelques semaines. Mathieu, vous avez 40 ans, vous avez fait une école de commerce. Avant de commencer votre carrière dans la maroquinerie, je crois que vous avez travaillé chez Lancel. Ouais. Ensuite, vous avez lancé votre propre marque de maillots de bain. C'était quoi, c'est quoi comme marque ?
C'était une marque qui s'appelait Les Insurgés, c'était des maillots de bain pour hommes. On avait fait aussi une série de sous-vêtements, de chaussettes.
Elle a été
revendue ?
Non,
ça a duré un temps et puis en fait c'est un projet qui n'a pas survécu.
Il n'a pas survécu, mais oui, mais c'est ça la fibre entrepreneuriale que vous avez. Vous montez, bon, ça ne vit pas, ce n'est pas grave. Vous remontez d'autres boîtes. C'est ça être entrepreneur ?
C'est ça être entrepreneur, oui. Alors, c'est des échecs qui ne font pas forcément plaisir, hein, mais au moins, on
mais vous savez
on en tire
que...
quelques leçons bah, qui
fois.
Est de savoir faire vivre un produit, faire vivre un projet. Ne pas partir tête baissée dans quelque chose sans y avoir... bien réfléchi avant en se disant est-ce que si je vends ces produits-là, je vais gagner ma vie.
Mais vous savez qu'aux États-Unis, hein, vous commencez à avoir de la valeur quand vous vous êtes planté et vous êtes remonté et vous êtes replanté. Et c'est là où vous dites, il y a quelque chose d'intéressant. Hein. Donc c'est bien, vous êtes tracé dans cette fibre entrepreneuriale. Depuis une dizaine d'années, vous êtes lancé dans la chaussure.
Exactement.
Avec votre associée, la cofondatrice de BIS.
Eva et Johan, mes deux associés. Ça fait 10 ans qu'on fait des chaussures. On a plusieurs marques de chaussures. Des chaussures ville pour femmes, des chaussures de ville pour femmes. des chaussures, des petites sandalettes d'été, des baskets. Mmh. On est aussi fabricant de chaussures pour des marques.
Donc vous connaissez l'univers de la chaussure, ouais. Mais là vous vous lancez dans un tout nouveau projet. Cette chaussure, comme on dit, upcyclée, c'est-à-dire ouais. Fabriquée à partir de nylon. Bah, vous allez ouais. nous raconter ce que c'est. Vous êtes prêt pour le pitch, Mathieu ?
Allons-y.
Allez, on y va. C'est à vous.
Alors, on est donc trois fondateurs. On travaille dans la chaussure depuis une dizaine d'années. Et c'est un métier assez traditionnel, la chaussure. Du coup, on a voulu venir avec quelque chose de différent. Repenser un projet différemment en se disant aujourd'hui, il y a beaucoup de matières qui sont sur le marché. Il y a beaucoup de choses qui existent déjà. Comment on pourrait réutiliser une matière pour la poser sur une chaussure ? On est des passionnés de basket. On en porte beaucoup. Et on s'est dit... On est nés tous dans les années 80, on a grandi dans les années 90. C'est quoi le symbole un peu des années 90 qu'on aimerait pouvoir refaire vivre ? Et c'est venu comme une évidence, le coupe-vent. Donc il y a une marque très connue qui s'appelle Kawi qui symbolise ce coupe-vent des années 90 qui a porté Sophie Marceau dans la boue, même si Solar, le chanteur d'Oasis. Et il s'avère que ce coupe-vent vintage, on peut, comme c'est une matière nylon, on peut l'utiliser sur de la basket.
Merci pour votre pitch, Mathieu Pinon, fondateur de Bis. Vous en avez apporté, ouais. Vous pouvez nous la montrer, surtout nous la décrire pour les auditeurs d'Europe 1.
Alors, c'est une basket, une sneaker running. Hein. C'est une running, on a du coup une partie de nylon. Chaque fois qu'on trouve un kawé, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque kawé est retravaillé en assemblage de couleurs sur la basket.
Elle est très belle, elle est dans les tons un peu violet.
Violet, hein. un peu de vert. Il y a des parties de cuir pour que la matière se tienne quand même. C'est une basket hyper légère, hyper souple, qui a été utilisée par les filles
du bureau.
Donc
là, il y a combien de kawé dans cette basket ?
Alors justement, en fait, la complexité de ce projet, c'est que chaque série est très exclusive. C'est-à-dire qu'avec un kawé, quand on achète des kawé en gros, on les trie au bureau. La styliste fait des compositions de couleurs sur la basket, qui aujourd'hui est la basket blondie, c'est une basket unique, unisexe. On a lancé la femme, on va lancer l'homme en septembre. Et ensuite, le kawé part dans un atelier de réinsertion de femmes à côté de Paris pour être nettoyé, découpé. Et ensuite, il part au Portugal pour être assemblé sur la chaussure. Chaque kawé nous permet de fabriquer entre 4 et 10 paires de baskets. Donc, il faut se dire qu'une personne qui va faire un 38 aura peut-être une basket 38 de la marque Bis en exclusivité sur le marché français.
Voilà. Donc, vous misez sur la rareté.
Exactement.
Sur le recyclage.
Ouais.
Hein, et une partie de fabrication française.
Ouais.
Il coche toutes les cases, hein, Sophie Grégoire, présidente Daniel.
Oui, c'est formidable. Hein c'est réinventer comme ça la basket qu'on l'on voit depuis tout le temps, toujours. Et la réinventer, en plus, elle est super belle.
Merci, c'est gentil.
Elle est très très belle, c'est vrai. Elle est confortable ?
Ah bah, il faudra demander aux filles du bureau, mais pour l'instant, elle la porte tout le temps. Donc
d'accord. Et vous portez pas, vous ?
Mais en septembre.
Ah, l'homme, c'est septembre. Ouais. D'accord.
Pour l'instant, c'est pour... On n'est pas encore au point sur l'homme, donc on attend d'être complètement au point avant de lancer.
Vous aimez, Déborah ?
Oui, j'adore. Hein
donc,
oui, très sympa.
On a, avec vous, on a la sneakers de la tête, ou c'est la sneakers du pied. Et puis avec vous, Sophie Grégoire, c'est la sneakers des mains.
Oui. On a trouvé enfin un modèle.
Je
cherche depuis 10 ans. Et dans la nouvelle collection, ouais, un nouveau gant qui vraiment fait penser à une sneakers.
Et il sort quand ?
Là, en septembre.
Ah, bah, très bien, très bien. Bon, vous restez avec nous. Mathieu, si vous êtes ici dans la France Bouge, c'est parce que vous démarrez donc cette partie-là de votre activité, c'est-à-dire la partie de ces baskets à base de kawé. Et donc, on va demander conseil à Nathalie Carré, dont c'est le métier d'accompagner les entreprises qui démarrent. Bonjour Nathalie.
Bonjour Elisabeth, bonjour tout le monde.
Donc
bonjour.
Mathieu a besoin évidemment de visibilité parce que des baskets, il y en a des tonnes et partout.
Il y en a des tonnes. Bah oui, avec Bis, quand on dit que la mode c'est un éternel recommencement, bah elle a preuve. Et alors ce Bis justement de votre marque, ça, évidemment ça peut servir à incarner la seconde utilisation d'un coupe-vent, mais aussi le côté on prend les mêmes ou presque, et on recommence. Et c'est peut-être sur ces bons souvenirs et sur les émotions qu'ils suscitent qu'il faut jouer pour vous faire connaître. Sur votre site, vous parlez de la Madeleine de Proust stylistique. Vous invoquez, vous l'avez dit, Vic de la Boom. Bref, des souvenirs qu'on a probablement oubliés et que vous allez nous aider à nous remémorer pour donner envie d'acheter. Mais sur votre site aussi, vous dites « Blondie, la basket upcyclée à partir de coupe-vent vintage ». On est un peu loin des émotions. Le côté upcyclé, c'est la méthode, le comment. Or, les consommateurs, ils n'achètent pas une méthode, mais un pourquoi. Pourquoi ces baskets existent ? Donc d'abord, on a envie d'acheter vos sneakers parce qu'elles nous replongent dans des souvenirs qu'on a envie de partager avec nos ados, par exemple, avec nos amis du même âge, parce qu'elles ont du peps et parce qu'elles sont en édition limitée. Ensuite, il y a le confort, puis l'upcycling qui peut être important pour une catégorie de personnes et pas du tout pour d'autres. Alors sur votre site, on a envie de voir des photos des années 80-90, d'écouter quelques extraits de musique de ces années-là, de revoir quelques extraits des films cultes de ces années, bref, de replonger et donc de lire que Blondie propose des baskets qui font revivre nos années La Boom par exemple. Sans oublier quand même de valoriser le confort, voire la technicité, parce qu'on parle quand même de 195 euros la paire. Mais évidemment, ça ne suffit pas, il faut aller à la rencontre des clients potentiels. La basket, ça peut être un achat raisonné, et on cherche un modèle en particulier, mais ça peut être un coup de cœur, et il faut donc que le client vous croise sur son parcours de flânerie numérique ou physique, alors qu'il ne pense pas spécifiquement acheter une paire de baskets à ce moment-là. Donc, vive les partenariats. Alors, je vous proposerais bien des partenariats avec des marques de vêtements qui sont spécialisées dans le vintage, mais vos baskets sont surtout pleines de peps et en édition limitée, donc je pencherais plutôt pour un rapprochement avec Benetton ou From Future qui propose des pulls hyper gays, hyper colorés. Ah oui, c'est très sympa. Les chaussettes Archiduchesse aussi, qui ont une gamme hyper colorée également, et puis une collection illimitée, ou bien des nouvelles marques de maroquinerie qui remettent les couleurs à l'honneur avec les petites séries. Enfin, bien sûr, enfin, mais pourquoi pas, Agnelle, qui a déjà quelques collaborations et qui propose des gants élégants mais gays.
Mais oui, pourquoi pas. Vous faites votre marché aujourd'hui.
Ouais, hein, complètement.
Des collabs avec Capuche, avec Bis, et puis vous reviendrez surtout nous en parler, parce que ça, c'est important. Vous fonctionnez en ce moment en fonds propres, Mathieu,
oui.
Pour Bis.
Oui.
Vous allez chercher des financements, j'imagine.
C'est possible dans le futur, ouais.
Ouais. Alors Nathalie, quel conseil pourriez-vous lui donner? Vous êtes la pro des financements, vous.
Ah ben oui, mais c'est toujours la même question. La question, c'est
pourquoi
demain.
Vous
mais, je change de question, Lisbeth.
Ah,
pourquoi vous? Oui, vous avez raison, mais aussi quoi demain? Parce que quand on investit, finalement, que ce soit dans un bien immobilier ou une entreprise, on le fait en anticipant un gain potentiel. Ou pas, et dans ce cas, c'est le rapprochement des valeurs qui joue. Mais là encore, on veut savoir plus sur demain pour s'assurer que l'alignement des valeurs est réel. Alors aujourd'hui, vous upcyclez des coupes-vents des années 80-90, mais comment vous voyez-vous dans 5 ou 10 ans? Est-ce que ce serait une nouvelle marque de sneakers upcyclée avec un décor, si je peux dire, des années 80-90, ou plus largement une marque de mode qui fait revivre nos 20 ans, qu'il s'agisse de baskets, de sacs, de mocassins ou autre? Alors si le côté les émotions de nos souvenirs, le côté Madeleine de Proust stylistique est plus important pour vous que l'objet basket en lui-même, gardez cette ligne et déclinez-la, soit avec des tissus typiques de l'époque, comme le coupe-vent ou le jean. Vous vous souvenez du jean bleu neige qu'on portait?
Oui,
mais d'ailleurs les jeunes le portent toujours. Ou bien le bandana, ou bien ces couleurs typiques de l'époque, comme le rose flashy. Vous vous souvenez, il était très flashy ce rose. Mais peut-être que vous pouvez aussi choisir l'angle édition limitée et le pousser vers une hyper personnalisation.
C'est déjà un peu le cas, hein, angle d'édition limitée.
Numéroté aussi.
Parce que c'est numéroté, hein, c'est ce que vous disiez tout à l'heure.
Et si on vous demandait de faire nos propres baskets avec notre propre coupe-vent qu'on a gardé dans un carton dans le grenier de nos parents, ou un vêtement qu'on aime vraiment beaucoup, mais qu'on ne peut plus porter parce qu'il est trop abîmé, par exemple. À vous de donner, de choisir le cap et que vous voulez donner à votre entreprise. Et en fonction de ça, le profil des investisseurs donc, qui pourraient rejoindre l'aventure peut être différent. Vous pouvez chercher, bien sûr, des business angels assez classiquement, mais vous pouvez aussi peut-être constituer une sorte de club des fans des séries des années 80-90, ou plutôt fédérer les clubs qui existent déjà. Certains auraient peut-être envie de contribuer pour que votre marque se développe et qu'ils puissent porter des baskets avec le cuir de David Hasselhoff dans K2000, ou quelques dorures des bijoux de Barracuda dans l'agence touriste, voire le S du Superman des années 80.
Vous êtes hyper vintage aujourd'hui, Nathalie. Hein.
Ah bah oui. Hein, alors moi, j'ai 10 ans plus. Ah, que vous voyez-vous?
Non, mais parce que K2000, vous connaissez
sur la...
Ah, ça va, ça me rassure.
Ah ben oui, je suis peut-être pas la plus vieille finalement. Alors voyez-vous, j'ai 10 ans de plus que vous, mais la préparation de l'émission m'a permis de replonger dans mes jeunes années
et
de me souvenir des moments que je passais devant la télé avec mon frère à regarder des films et des séries, des moments partagés avec mes amis à parler de ce que nous avions vu la veille. Alors merci pour cette Madeleine de Proust stylistique. Et gageons que Bis de Bronze devienne la marque de mode pleine de peps et de souvenirs qui créent du bonheur et des fous rires.
Mais franchement, merci. Nathalie, vous leur avez fait le marketing un peu de la marque, parce que vous nous donnez envie avec tout ce que vous venez de nous décrire. Merci beaucoup, Nathalie.
Merci,
Carré.
Oui.
Hein. Une réaction, Mathieu, par rapport
hyper,
à ce que vient de vous dire Nathalie?
Vraiment, c'est hyper intéressant. Parce que c'est vrai que quand on a le nez dans le guidon, il y a des choses qu'on ne voit plus. Donc il y a des réflexions sur la partie... navigation sur le site, les images qu'on véhicule et tout ça qui peuvent être intéressantes.
Voilà. Ouais, tout à fait. Non, mais en tout cas, Nathalie, vous nous avez emmené dans les années 80-90 avec K2000 ou encore l'agence Touriste. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Merci, Nathalie. On vous retrouve évidemment lundi pour vos précieux conseils. Sophie Grégoire, vous êtes la présidente d'Aniel. Je reviens vers vous parce que vous, c'est aussi l'histoire de l'entreprise qui fait votre force. Hein, c'est ce qui vous démarque. C'est le fait que vous ayez pu rebondir à chaque fois. Vous avez donc pu racheter l'entreprise au moment où vous l'avez vendue, vous l'avez rachetée et vous avez toujours cette licence Dior.
Alors, c'est très amusant parce que, en fait, quand maman a voulu vendre, l'acheteur ne voulait vendre que si la licence Dior continuait, parce que c'était 80% de l'activité.
Bah évidemment, évidemment.
Et à l'époque, Sidé Toledano, qui était le président Dior, de manière extrêmement sympathique et humaine, a laissé cette licence, a prolongé la licence pendant 2 ans pour que maman puisse vendre son entreprise. Et 2 ans après, quand je suis revenue le voir pour lui dire, écoutez, c'est vraiment, j'ai tellement de choses à faire, tout ça n'était pas prévu, est-ce que vous pouvez encore nous laisser encore 1 an? Et il a encore accepté.
Et voilà.
Et c'était formidable. Et à ce moment-là, ça a été fantastique de voir combien les Galeries Lafayette m'ont offert la Galerie des Galeries pour faire une exposition et présenter notre savoir-faire. Comment tous nos partenaires, en fait, la Maison Longchamp, pareil, nous a beaucoup soutenus.
Donc finalement, votre succès, c'est aussi c'est vos fournisseurs, c'est vos clients, c'est ce qui ont fait que vous avez tenu et résisté à chaque fois.
Tout le temps.
Tout le temps.
Tout le temps.
Et c'est toujours le cas aujourd'hui.
Et c'est toujours, c'est vraiment une grande famille. Mmh. Au-delà de notre famille à nous, on continue. Mmh. Et on a toujours été extrêmement soutenus, aidés et aimés.
Et en plus de ça, vous étiez au courant pour la 57e édition du Super Bowl américain, ce qui allait se passer?
Non, on ne sait jamais. Il y a toujours ces 3 lettres, VIP.
Donc on ne sait pas, dire que vous savez qu'ils sont intéressés. Jamais. Alors pour les auditeurs, ça s'était déroulé le 12 février dernier et la superstar Rihanna est apparue sur scène dans un long manteau rouge signé Alaya avec des gants fabriqués à Aniel.
Oui, fabriqué à Saint-Junien. Et en fait, la manche du manteau était un gant. Donc voilà, et on est extrêmement fiers.
Rihanna au Super Bowl le 12 février avec des gants Aniel. Énorme, on peut dire, c'est un énorme coup de pub parce que Rihanna, c'est aussi un public qui est plus jeune, qui ne connaît pas forcément Aniel. Ça vous fait venir des clients, ça?
Alors, oui, en tout cas, c'est une énorme fierté pour les artisans de Saint-Junien. Nous avions fabriqué les gants de Carla Bruni quand elle a rencontré la reine Elisabeth, puis Madame Trump pour l'investiture de son mari, puis Madame Macron.
Et vous les rencontrez à chaque fois, vous?
Alors, non.
Dommage.
Non, parce que les essayages sont souvent faits par les maisons. En revanche, ma fille était allée à New York pour l'essayage pour Madame Trump. Alors, elle était restée en bas de la tour, mais on a des photos rigolotes sur l'essayage.
Vous restez avec nous tous les trois, hein, Mathieu Pinon, fondateur de Biz, Déborah Oana pour Capuche, et vous, Sophie Grégoire, vous êtes la présidente d'Aniel, à suivre la saga du jour.
Europe 1.
À suivre, direction Cherbourg, célébrer, faire vivre le savoir-faire local. Comment? En proposant d'élégants et sobres parapluies fabriqués à la main. Il paraît qu'ils sont testés en soufflerie. Et oui, ça s'appelle les parapluies de Cherbourg. À tout de suite.
Europe 1.
La France bouge. Elisabeth Assayag.
Et je peux vous dire que ça parle dans le studio. Il y a des collaborations qui sont en train d'être faites. Et oui, parce qu'aujourd'hui, c'est une émission accessoire des produits de notre quotidien. Des accessoires fabriqués en partie en France. On en parle avec la papesse des accessoires, avec vous, Sophie Grégoire, puisque vous êtes la présidente de la maison Aniel. Une maison qui existe depuis 1937. Une maison familiale, féminine. C'est important d'être une maison dirigée par des femmes. Ça change quelque chose, d'après vous?
Alors, jusqu'à pas très longtemps, c'était on n'y pensait pas.
Mais oui, mais sauf que maintenant,
voilà.
C'est devenu
aujourd'hui
une question.
C'est ma fille qui m'a fait remarquer cette transmission par les femmes.
Ouais.
Pour nous, ce n'était pas évident.
Mais y a pas d'hommes dans la famille qui ont envie de...
Non.
Non, vous avez eu des garçons?
Alors, j'ai un garçon, Amaury, qui ne s'est pas encore inscrit dans cette lignée. Donc, je ne sais pas, peut-être un jour. Et il travaille dans une start-up.
Voilà, bon, bah, il a choisi autre chose. Donc, oui. Aniel reste 100% féminin. Nous sommes toujours avec Déborah Ohana, fondatrice de Capuche, et avec Mathieu Pignon, le fondatrice de Bis, c'est basket, cofondateur de Bis, c'est basket recyclé à base de coupe-vent vintage. Alors, Déborah, vous nous l'avez dit tout à l'heure, les parapluies, ce n'est pas votre truc, c'est pour ça que vous avez créé Capuche.
Oui.
Mais les parapluies, c'est aussi un savoir-faire français, et on va partir à Cherbourg avec Solène Godin.
La France bouge, la saga du jour.
C'est un film qui a inspiré la création d'une entreprise en 1963, Les Parapluies de Cherbourg, avec Catherine Deneuve, réalisé par Jacques Demy, sort sur grand écran. 20 ans plus tard, un photographe parisien décide de retourner dans sa Normandie natale pour créer une manufacture de parapluies à Cherbourg, Solène Godin.
Oui, bonjour Elisabeth. En 1986, Jean-Pierre Yvon ouvre un atelier en plein cœur de la ville. Son parapluie, il le veut élégant, fait à la main et solide, l'anti-bourrasque, que celui qui se vend le plus est d'ailleurs testé à l'Institut aérotechnique de Saint-Cyr-l'École face à un vent artificiel de 155 km/h. Mais surtout, ce parapluie est intemporel selon le fils du fondateur Charles Yvon, président du parapluie de Cherbourg.
On voit souvent en boutique, c'est que le parapluie se transmet de génération en génération, de la grand-mère à la petite-fille ou du grand-père au fils. Ils ont vu leur maman tenir le parapluie au début comme parapluie, très élégante, et puis après comme canne. Quand ils viennent le faire réparer, toutefois ils ont eu un aléa avec, et on voit toute l'appartenance, toute l'affection qu'ils ont à travers le produit.
Il paraît même que les propriétaires de parapluies de Cherbourg se reconnaissent entre eux.
Oui, trois détails permettent de le reconnaître, ce parapluie. Le blason de la marque est brodé sur la toile, il a deux lanières et une petite plaque en forme de cône sur le haut. Alors quand les initiés se croisent, ça donne lieu à cette scène. Charles Yvon se promenait dans une rue de Paris.
Ils ont vu que j'avais un parapluie de Cherbourg. Ils ont vu que j'ai vu qu'ils avaient un parapluie de Cherbourg. Donc on s'est reconnus et on s'est fait juste un léger sourire. On peut imaginer ce qu'on veut à travers le sourire. Moi j'ai imaginé, oh quel beau parapluie. Et moi, dans mon sourire, ça voulait dire quel beau parapluie aussi.
Et ce parapluie se décline dans plusieurs versions, dont une de sécurité.
Digne de la panoplie de James Bond. C'est plus qu'un parapluie, c'est une arme de défense. Il est utilisé par les gardes du corps des célébrités ou des chefs d'État. Description avec Charles Yvon.
Il y a un grand pouvoir occultant pour les paparazzi. C'est un outil qui sert beaucoup en manifestation, par exemple. Ça résiste aussi aux jets d'objets contondants. C'est-à-dire qu'un pavé de 3,5 kg jeté sur le produit, il ne cassera pas. Résiste au feu, à l'acide, et sa discrétion assure l'efficacité du produit aussi.
On retrouve le parapluie de Cherbourg dans plusieurs des films.
Oui, dans Arsène Lupin, la série diffusée sur Netflix avec Omar Sy, ou dans le film Tempête avec Pio Marmaille et Mélanie Laurent, ou encore dans le clip de la chanson La pluie de Stromae et Aurel San. Toujours autant de pluie
chez moi. Dans leur clip, Aurel San et Stromae dansent avec le parapluie de Cherbourg. Aurel San a fait honneur à sa région, on voit qu'il porte fièrement le parapluie et il adore la marque.
Qui sait, un jour peut-être comme les gants français de la maison Aniel portés par la chanteuse Rihanna, le parapluie de Cherbourg montera sur la scène du Super Bowl aux États-Unis.
Et là, on entend la chanson Umbrella de Rihanna, Umbrella en français, qui signifie parapluie. Merci Solène Godin pour cette très belle saga du jour.
Merci.
Le parapluie de Cherbourg qui existe depuis 1986. Nous sommes toujours avec Sophie Grégoire, présidente de la maison Aniel, avec Déborah Ohana, fondatrice de Capuche, et Mathieu Pignon, le cofondateur de Bis, ses baskets recyclées, hein, enfin des baskets à base de coupe-vent vintage. Justement, Sophie Grégoire, vous, chez Aniel, il y a une vingtaine de salariés. Comment vont-ils?
Alors,
entre écoutez, Saint-Julien et Paris. Hein.
Oui, alors ouais. Saint-Julien est à côté de Limoges, donc ouais. En Limousin. Écoutez, j'espère qu'ils vont bien.
Ouais. Est-ce que vous avez mis en place des choses particulières, justement? Est-ce que vous avez accompagné? C'est une maison qui existe depuis 1937, donc avec des habitudes, avec des savoir-faire. Est-ce que vous avez mis en place des initiatives pour les accompagner? Parce que 20 salariés, on a le temps de les connaître.
Alors,
de savoir qui ils sont,
oui,
et leurs leur besoins.
Oui, alors j'attache beaucoup d'importance à l'organisation de leur vie. Les femmes, je me suis rendu compte par exemple qu'en commençant à travailler à 8h du matin, on était obligé de mettre son bébé pendant une demi-heure chez une gardienne pour aller après à la crèche. Et quand j'ai découvert ça, j'étais folle. En fait, oui, on peut arriver à 9h moins le quart, aménager son temps de travail, pouvoir s'absenter une heure au milieu de la journée pour aller voir un médecin. Ça, c'est vraiment, je trouve,
quelque chose... Vous y attachez une importance particulière.
Ouais, très, très... Enfin, c'est vraiment très important pour nous tous. Quand on a des projets pour la couture, pour des... ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est vraiment important d'être là. On nous demande d'être là, de fabriquer des gants à minuit pour que à 5 heures le gant puisse partir et aller prendre un avion pour l'autre bout de la terre. En fait, c'est jamais un problème parce que je crois qu'on a une espèce d'équilibre entre les besoins de l'entreprise et les besoins
de la vie privée,
personnelle.
De chacun.
Et c'est formidable.
Vous avez des demandes comme ça spéciales où il faut que le gant soit prêt pour 5 heures du matin?
Oui, ça nous est arrivé.
Par exemple.
Alors, c'était pour un défilé pour Vuitton, où il a fallu revenir à 2h du matin, fabriquer, et le défilé avait lieu le lendemain. Et donc, entre la matière, le brodeur avait dû faire les choses en fin de soirée, et puis nous, on avait juste la nuit pour monter le gant, et c'est arrivé à 10h à Paris, et le défilé a eu lieu à 10h30.
Et vos équipes répondent présents quand vous leur dites il faut terminer ce gant pour 5h du matin?
Oui.
Elles sont là?
Oui, c'est très naturel.
C'est très naturel.
C'est très naturel, mais c'est vraiment une famille, donc... j'ai l'impression que tout le monde se sent à la maison et on fait ça comme
vous
on le ferait pour un an.
Vous les mettez à l'aise et ils sont heureux. Mathieu, vous, chez BIS, il y a combien de salariés?
On est 8.
8. Ouais. Et ça démarre, ça fait un an que le projet est en cours, mais voilà, est-ce que vous aussi, vous avez mis en place des choses particulières pour le bien-être au travail, qui est une question majeure aujourd'hui?
On est à l'écoute de nos salariés. On leur donne de plus en plus d'autonomie, en fait.
Ouais.
On a une moyenne d'âge chez nous qui n'est pas très élevée, et de plus en plus, il y a une demande de télétravail, chose qu'on fait de plus en plus, et que ça rentre un peu dans les mentalités. Beaucoup de formation, dans le sens, même une community manager chez nous viendra en usine pour découvrir comment on fait une chaussure, comprendre de quoi on parle. Donc des voyages, des investissements pour aller découvrir un peu notre métier et savoir en parler correctement.
Et vous, Déborah, chez Capuche, il y a des salariés ou pas encore?
Oui, on est une petite équipe, on est une petite dizaine de personnes, aussi. Pas toutes salariées. Et en effet, la communication est un point clé entre nous et qu'on se sente faire partie d'une équipe. Et je trouve, moi, je trouve beaucoup d'énergie dans le fait de sentir l'implication des personnes avec qui on travaille. Et la stimulation, s'autoriser à avoir des idées, se contredire, débattre, c'est vraiment quelque chose d'important.
Donc, vous leur parlez, vous êtes très proche d'eux.
Ouais.
C'est important. Merci à vous trois. C'est déjà la fin de cette France qui bouge dans ses produits de notre quotidien, ses accessoires. On a parlé baskets, sneakers, capuches et évidemment des gants. Avec vous, Sophie Grégoire, vous êtes la présidente de la Maison Agnel. Merci à vous, Déborah Oana, fondatrice de Capuche, avec un K. Et merci à vous, Mathieu Pinon, cofondateur de BIS.
Merci.
Merci à tous les trois. On se retrouve lundi, évidemment, pour une prochaine France bouge. Il y a des rendez-vous Europe 1 à ne pas manquer. Par exemple, la table des bons vivants, c'est présenté par Laurent Mariotte. C'est demain samedi, de 11h à 12h30. Vous pouvez l'écouter. Demain, il va recevoir Christelle Brua. C'est l'ancienne chef pâtissière du Palais de l'Élysée. Rendez-vous demain à 11h, évidemment, sur Europe 1. En attendant, le flash, suivi de Christophe Ondelatte.